Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Caroline. Pour Caroline, travailler auprès des bébés était une évidence depuis sa plus tendre enfance. Après une très riche expérience en néonatologie, elle décide de créer sa structure pour devenir accompagnante en périnatalité. Bonne écoute! Bonjour Caroline!
Bonjour Marielle!
Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Compresse et Sparadra.
Eh ben moi aussi, c'est un podcast que j'écoute très souvent, je suis très très fan. Donc je suis ravie de pouvoir être avec toi aujourd'hui.
Oh bah génial, merci Caroline. Alors on va parler de ton métier d'infirmière, de ta reconversion vers un secteur qui est en toute logique la suite logique de ce que tu as fait avant, Mais t'as plein de choses à nous raconter. Pour commencer, je te laisse te présenter, Caroline.
Oui. Alors bah, du coup bonjour à tous, moi je suis Caroline, je suis infirmière de formation, j'ai été diplômée en 2012 et effectivement mon histoire, mon parcours professionnel m'a amenée à être aujourd'hui accompagnante périnatale.
Très bien. Alors, tu sais que moi, j'aime bien remonter un petit peu dans le temps et moi, j'aimerais savoir ce qui t'a amené justement vers cette formation de base qui est le métier d'infirmière.
Alors, en fait, moi, je voulais être infirmière pour être puéricultrice. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis vraiment toute petite. Je me revois, ça devait être en CM1, CM2, demander à ma maman quel est le nom du métier où on soigne les bébés. C'était vraiment quelque chose que je lui avais formulé très très jeune et elle m'avait dit puéricultrice et j'étais hyper fière à 10-11 ans quand mon maître me posait la question « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» je répondais « être puéricultrice ». C'était vraiment soigner les bébés malades. Alors d'où ça vient, je ne sais pas, mais c'était vraiment quelque chose qui était ancré en moi. J'adorais les bébés. À Noël, je demandais des livres sur le développement du bébé. Ma chambre était remplie de photos d'Anne Guedes. Je pense que tu vois qui c'est, la célèbre
très
photographe.
Bien. J'en ai eu beaucoup dans ma chambre aussi.
Ouais. Bon, en même temps, c'est super mignon. Donc voilà, ça a toujours été être puéricultrice. Et puis les choses ont fait que je n'ai pas été au bout de cette formation-là. Mais voilà, c'était en moi depuis toute petite.
Ok, très bien. Alors du coup, le parcours s'est fait sans trop d'embûches. Après, peut-être une formation, un bac général. Tu es tout de suite arrivée à l'école d'infirmière ou comment ça s'est passé?
Alors non. En fait, j'ai fait un bac S et mes professeurs m'ont beaucoup influencé sur le fait de mes capacités, comme quoi je pouvais faire fac de médecine et pourquoi pas sage-femme. Et donc du coup, pourtant j'avais en terminale passé mon concours d'infirmière que j'avais eu et je me suis laissée en fait un petit peu influencer et j'ai refusé mon entrée en école d'infirmière pour faire une première année de médecine, chose que j'ai regrettée très 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 rapidement. Je me voyais pas faire des années d'études si longues, n'être pas dans le concret rapidement. J'allais être pour moi je faisais médecine pour être sage-femme. Les choses se sont pas déroulées comme je le souhaitais et je savais au fond de moi que c'était pas la voie que je voulais prendre. Donc j'ai arrêté très rapidement, j'ai même pas fini ma première année. Je suis rentrée en prépa d'infirmière. Pour le deuxième passage en concours, j'ai eu du mal à avoir mon concours, en fait. Donc, c'était un peu rageant parce que je l'avais eu très facilement en terminale. Et un an et demi après, j'avais du mal à l'avoir.
Ouais, j'imagine.
Mais voilà, ça devait se faire comme ça. Et voilà, j'ai été en prépa. Et du coup, après, j'ai eu mon diplôme. Et je suis rentrée en première année. Donc, du coup, avec le nouveau référentiel, j'étais la première promo. Donc, ce qui m'arrangeait bien, parce que je t'avoue que les mises en situation professionnelles.
MSP. Alors ça, parlons-en. Oui. C'est donc pour l'ancien référentiel de formation qui est celui auquel j'ai appartenu, parce que moi, j'ai fini mes études en 2010.
D'accord.
Donc j'étais l'avant-dernière année de ce référentiel-là. On était évalués, alors on avait 4 ou 5 stages par an sur les 3 ans d'études.
Ouais.
Et sur la moitié de ces stages à peu près, on avait un formateur qui venait nous voir en stage pour nous évaluer sur un soin, ou même souvent plusieurs soins, mais vraiment qui était debout dans la chambre avec le patient et qui regardait tous tes faits et gestes.
C'est
c'était
dur.
extrêmement stressant. Mmh. Ouais, c'était... Moi, ça... j'ai été plus stressée pour ça que pour le bac, le permis. Le... C'était une dose de stress qui était énorme. Et donc, franchement, moi, j'étais contente de savoir que ça n'existait plus parce que ça rendait même le soin un peu théâtral. On faisait des grands gestes, des grandes paroles pour... bon.
Ouais, et puis c'est pas forcément représentatif parce qu'avec le stress, on peut facilement faire une faute d'hygiène. Enfin, utiliser un mauvais mot avec le patient, enfin, c'est
exactement.
Ouais.
Ouais, ouais, la gestion du stress. Et d'ailleurs, ça s'est représenté pour cette dernière mise en situation professionnelle, donc juste avant le diplôme d'État. Enfin, pour le diplôme d'État, pour obtenir le diplôme d'État. Nous, la majeure de promo n'a pas eu son diplôme d'État. Alors, je sais plus si elle était majeure, mais elle était en tout cas vraiment excellente. Elle avait eu des notes excellentes toute l'année et sous le stress, elle ne l'avait pas eu. Tu vois.
Ouais, c'est dur. Ouais,
très, très dur.
J'étais bien contente de plus faire partie de ces promos-là, même si ce n'était pas évident d'être la première promo avec le nouveau référentiel. Parce que en stage, je me souviens que les professionnels de santé qui nous accueillaient, en fait, ils savaient pas trop où tâtonner avec ce portfolio où il y avait 10 000 cases à remplir. Enfin, c'était vraiment, c'était pas simple. Mais après, voilà, ça s'est bien mis en place et puis chacun s'est fait confiance aussi. Donc, ça s'est bien déroulé. Mais, je comprends. Les MSP, on en a entendu parler, c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Ah ouais, franchement, il y en a qui sont sortis un petit peu traumatisés, quoi. Ouais. Et du coup, pendant tes études, à nouveau, t'as cet objectif derrière de faire la formation de puéricultrice, donc qui, du coup, une formation, voilà, un diplôme supplémentaire après le diplôme d'État infirmier.
Ouais, en tout cas, j'ai orienté mes stages parce qu'on avait la possibilité de faire des vœux sur nos stages pendant l'école d'infirmière et j'ai vraiment orienté mes stages vers la pédiatrie. J'ai fait un stage en néonat de niveau 2B, donc c'est des petits soins intensifs pour les prématurés. J'ai fait un stage en pédopsychiatrie et j'ai fait mon stage pré-pro. C'est le stage pré-pro, c'est le vraiment tout dernier stage avant d'être diplômée. Je l'ai fait en réanimation néonatale et pédiatrique. Donc j'ai vraiment orienté. C'était vraiment un souhait et ce qui est chouette, c'est que ma tutrice a vraiment été à l'écoute de ça, donc j'ai pu vraiment m'épanouir dans mes stages, ça c'était vraiment super. Cependant, les 3 années d'études, c'est vraiment... Enfin, moi, je sais que je me suis donné corps et âme. Enfin, j'ai vraiment énormément travaillé. J'étais passionnée, mais émotionnellement, ça prenait beaucoup, beaucoup. Et j'ai pas eu le courage, en fait, de réenchaîner sur l'année en école de puériculture après. Et en même temps, j'entendais aussi le son de cloche de « c'est bien d'avoir un petit peu d'expérience en tant qu'infirmière avant de se spécialiser pour être bien, avoir des bonnes bases et puis aller plus loin ensuite. » Donc, je ne m'étais pas vraiment mis la pression. Je savais que ça viendrait. Mais voilà, je ne me suis pas lancée dans les concours de suite lors de la 3e année, en tout cas.
D'accord. Ouais. Alors, quel choix tu as fait, du coup, pour ta première expérience professionnelle ?
Alors, c'est un choix que j'ai pas vraiment... Enfin, c'était un peu par dépit. J'ai beaucoup postulé pour des services de réanimation ou soins intensifs ou néonates. Je savais que je voulais être faire pour travailler dans ce service-là. J'avais besoin de technicité, le côté... je me souviens, même petite, on en parlait voilà, de cette appétence. Déjà, je regardais beaucoup de documentaires sur la prématurité. Enfin, c'était vraiment voilà, en moi. Et en fait, à l'époque, ils embauchaient très, très peu d'infirmières. Il fallait absolument le diplôme de puère. Donc, mon premier poste a été en service adulte, en cancérologie digestive, soins palliatifs.
D'accord.
Donc un service très très technique,
ah ouais.
Qui n'a pas été facile parce que j'ai été confrontée à la mort de manière très très brutale et très répétitive dans mes soins. Ça a été franchement compliqué, mais très formateur parce que la cancérologie, c'est beaucoup de technicité et je pense que j'ai appris énormément et c'est ça qui m'a aidée aussi ensuite dans mon poste en soins intensifs réanimation néonatale parce que j'avais ces bases-là chez l'adulte. Donc, j'y suis restée 9-10 mois. Et ensuite, l'hôpital où j'avais fait mon stage pré-professionnel en réanimation néonatale et pédiatrique m'a informé qu'il y avait un poste qui s'était libéré. Alors, pas en réanimation pédiatrique, mais en réanimation néonatale. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. On était à l'époque à Bordeaux avec mon chéri. Et en fait, on a tout laissé tomber pour partir sur Paris, là où j'avais fait mon stage pré-pro.
D'accord. Bon, tu t'es dit, c'est l'occasion à pas laisser passer, quoi.
Ah ben, complètement. Complètement. Et puis ça tombait très très bien. Lui, il n'était pas non plus hyper comment on dit?
Attaché à.
Oui, enfin, il se cherchait professionnellement. Il était aussi en reconversion.
Ah, d'accord.
Donc c'était le moment, quoi. Il n'y avait rien qui nous rattachait là où on était.
Oh,
donc
super.
On a vraiment sauté sur l'occasion et je ne regrette absolument pas. C'était ma magnifique expérience professionnelle. C'était super. Ouais, vraiment.
Et c'était rassurant aussi de revenir dans un endroit que tu connaissais à travers les stages. Alors peut-être que l'équipe avait changé depuis, mais en tout cas, on retrouve un peu des repères.
Exactement. Alors l'équipe en fait avait changé puisque c'était à l'hôpital Necker à l'époque.
D'accord.
Et en fait à l'hôpital Necker quand j'ai fait mon stage pré-professionnel, il y avait le service de réanimation et de réanimation néonatale qui était rattaché. Et en fait ce qui s'est passé pendant la fin de mes études, c'est qu'il y avait un institut en périnatalité qui a intégré l'hôpital de Necker. Et donc là, c'est créé dans un nouveau bâtiment une réanimation néonatale, des soins intensifs de néonates, une pédiatrie néonatale, une unité kangourou. Enfin, ça a vraiment été beaucoup plus structuré bien différencié de la réanimation pédiatrique. Donc,
okay.
Voilà. Donc, oui, j'avais quelques bases, mais alors après, ça a été quand même beaucoup de travail personnel parce que ben, le métier puériculture, enfin, en tout cas, sa formation, ça amène beaucoup de connaissances.
Mmh.
Donc, au début, il fallait que j'emmagasine quand même beaucoup de connaissances. Ce qui a été très bien fait, c'est qu'il y avait un mois, en fait, de doublure. Donc, c'est énorme.
Ah, super. Mmh. Ouais. Donc, pendant un mois, tu as une infirmière qui est avec toi et qui t'encadre complètement, quoi.
Exactement. Donc, c'est hyper rassurant parce que bah, les traitements sont très spécifiques, la prise en charge est très spécifique, la surveillance est très spécifique. Et puis, en fait, le prématuré, il marche sur un fil, quoi. C'est un pas en avant, trois pas en arrière. Et on sait qu'à tout moment, en fait, du fait de son immaturité, bah, sa vie peut basculer. Donc, il faut vraiment être alerte, avoir une observation très, très fine du bébé que tu as en face de toi. Et tout ça, on a besoin quand même au début d'être bien entouré pour savoir quoi observer. Et même le tout petit détail, je me souviens de mes collègues qui avaient 10-15 ans d'expérience, qui savaient repérer une entérocolite. Donc c'est une pathologie digestive qui est un risque, une complication liée à la prématurité. Elle savait repérer tout de suite, avant même qu'il y ait des symptômes digestifs, que l'entérocolite arrivait. Et c'est une observation très très fine. Et arriver à ça au bout de 10 ans, pour moi, c'était waouh, le Graal, quoi. C'était de se dire, fait son travail vraiment de manière impressionnante. Donc, j'ai vraiment apprécié ce mois de doublure. Après, j'ai fait beaucoup de formations aussi par moi-même. Et puis beaucoup de travail personnel, et j'ai réussi à m'éclater donc de 2012 à 2019 au sein de ce service-là, quoi.
Génial. Quand tu dis les formations par toi-même, c'est des formations que tu finançais du coup toi-même de ton côté ?
Alors, soit que je finançais, après la majeure partie était quand même pris en charge par le DIF à l'époque.
Ah oui,
je ne me souviens plus comment.
Je ne vais jamais réussir à trouver ce que ça veut dire aussi.
On cumule en fait des points de financement et on peut les utiliser au cours de notre carrière pour des formations en lien avec notre poste. Donc, du coup, j'ai pu faire beaucoup de formations sur l'allaitement, le pot à pot, le deuil périnatal. J'ai pu faire aussi sur l'éthique, parce que c'est vrai que les soins palliatifs en néonatologie, c'est un gros sujet et c'est bien particulier. Donc, on a besoin d'être formé sur ce que dit la loi. Donc, c'est très, très important. Et puis, moi, je suis comme ça. J'ai besoin de comprendre avant d'agir. Je ne peux pas agir, prendre en soin un patient si je ne comprends pas ce qui lui arrive. Et puis, dans tous les cas, les pédiatres là-bas étaient très à l'écoute. On a toujours pu leur poser des questions. On n'avait jamais honte de dire « je ne comprends pas ce qui arrive à cet enfant ». Ils étaient toujours là pour nous répondre. Et c'est génial.
Ah,
quoi.
Super. Alors au niveau des professionnels avec lesquels tu évoluais, donc des pédiatres bien sûr, des infirmières puéricultrices du coup.
Alors en fait ce qui était chouette, c'est qu'on était infirmière et infirmière puéricultrice et on avait exactement le même poste et il n'y avait aucune rivalité.
D'accord.
C'était vraiment ce qui était chouette dans le service, c'est que on travaillait conjointement sans aucune différence, sans jugement, sans... Voilà, c'était vraiment très très chouette pour ça aussi.
Oh, super.
Et puis on avait aussi des auxiliaires de puère avec.
Bien sûr, oui.
parfois, c'était pas toujours le cas parce qu'on avait des bébés très techniqués qui avaient beaucoup de sondes. Voilà, c'était. Mais on faisait avec elles parfois les soins à 4 mois, où on leur déléguait des soins comme parfois des mises à l'allaitement. On avait une auxiliaire de puère qui était une pro dans l'allaitement et on faisait très souvent référence à elle. Et puis voilà, on avait aussi une cadre qui était très à l'écoute. Enfin, vraiment, je suis. Un service vraiment qui était vraiment au niveau humain très 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 chouette. Très belle expérience.
Tu parlais de l'unité kangourou, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Oui, alors l'unité kangourou, en fait, j'y ai travaillé une fois que j'ai quitté le service où j'étais là, en soins intensifs néonat. L'unité kangourou, c'est une unité mère-enfant, où en fait on permet à la mère ou le papa, mais c'est souvent la maman du fait de l'allaitement, d'être ensemble dans une chambre. Il y a quand même le professionnel qui vient régulièrement pour une surveillance un petit peu plus accrue qu'un bébé en maternité. Et on y fait des soins. Donc c'est souvent ce qui arrive, c'est surveiller la température du bébé pour être sûr qu'il se thermorégule bien. Une aide à l'alimentation, que ce soit au biberon ou à l'allaitement. En fait, on se dit que quand les familles arrivent dans ce service-là, c'est qu'elles sont proches du retour à la maison. Donc c'est un beau service. Voilà.
C'est la transition avant de pouvoir rentrer à la maison avec son bébé. D'accord.
Quand on peut, c'est pas toujours possible en fait que les familles passent par ce service-là par manque de place ou parce que les choses se précipitent un petit peu. Mais en tout cas, ça, c'est souvent le cas et parfois ça arrive que les bébés soient juste hospitalisés avec leurs parents dans cette unité-là sans avoir besoin d'aller dans un service de néonat plus technique.
D'accord, d'accord. Voilà. Ah oui, est-ce qu'on peut faire un petit point du coup sur ce terme néonatal ? Alors il y a réanimation néonatale, néonatologie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences entre tous ces services ?
Alors en fait, quand on regarde sur un centre hospitalier, une clinique, il y a un niveau de maternité. Mmh. Et en fait, le niveau nous indique s'il y a des soins en néonatologie qui peuvent être proposés à l'enfant. Donc, par exemple, une maternité de niveau 1, c'est juste une maternité. Si un bébé a besoin de soins particuliers, il devra être transféré dans une autre maternité. Mmh. Une maternité de niveau 2, ça va être une maternité qui va avoir des soins de néonatologie, mais sans entrer dans de la réanimation. Donc, ça va être des enfants qui vont être peu techniqués, qui vont peu avoir besoin de support ventilatoire. Donc après, il peut y avoir des aides à l'allaitement ou à l'alimentation par des sondes gastriques, mais c'est vraiment, il y a peu de technicité. Par contre, les maternités de niveau 3, c'est là où il y a une vraie réanimation néonatale, où du coup, il y a des ventilations invasives avec des intubations, vraiment des soins d'urgence quasi quotidiennement, hein, faut dire ce qu'il y a dans des services comme ça, et où aussi il y a des soins palliatifs qui sont mis en place. Voilà un petit peu ce qui différencie les différents niveaux.
Et c'est comme ça que parfois en cours de grossesse, on pourra déjà dire à des parents, voilà, l'accouchement devra se passer dans une maternité de niveau 2, de niveau 3 pour X ou Y raison, X problèmes qui se sont déroulés pendant la grossesse.
Exactement, parce qu'en plus, la néonatologie, on y accueille des enfants prématurés. Donc, il y a la prématurité qui va être induite parce que la maman a un problème de santé ou parce que le bébé a un problème de santé ou est de petit poids. Donc, ça, on peut le prévoir et effectivement, on peut diriger le couple vers une maternité du niveau adéquat. Mais il y a aussi la prématurité qui est spontanée où la maman va se mettre en travail sans qu'on le devine la veille. Donc du coup, soit il y a une néonatologie qui est proche et on va pouvoir la transférer, on va pouvoir transférer aussi son bébé in utero, soit les choses se font trop précipitamment et elle accouche dans l'établissement où elle devait accoucher et puis ensuite il va y avoir un transfert. Mais on parle de prématurité, mais la néonate c'est aussi accueillir des enfants à terme mais qui ont des pathologies X ou Y. C'était le cas quand je travaillais en soins intensifs néonat. C'était vraiment, on accueillait des bébés qui avaient des pathologies cardiaques, qui avaient des pathologies digestives, neurologiques. C'était aussi un pôle très chirurgical. C'était vraiment au-delà de la prématurité. Donc effectivement, en fonction de ce qu'on voit aux échos avant, on peut très justement diriger les parents vers un centre de soins qui est le plus adapté, quoi.
Bien sûr. Donc toi, après 6 ans donc en réanimation néonatale, tu fais ce petit transfert donc vers l'unité kangourou. Pour quelle raison ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie que tu demandes ce changement de service ?
Alors en fait, l'unité kangourou, elle s'est faite dans un autre établissement. En fait, les choses se sont passées un petit peu différemment. J'ai eu ma fille Margot en 2017. Donc, je travaillais à l'époque en soins intensifs néonates dans ce grand hôpital pour enfants. Et en fait, quand je suis revenue, la grossesse a été un petit peu compliquée. Je me suis retrouvée de l'autre côté de la barrière, voilà. Et quand je suis revenue travailler au sein de ce service, j'ai eu un blocage. L'émotionnel prenait trop le pas sur ce que j'étais en tant que soignante. Alors, mes collègues étaient toujours très soutenantes, mais c'était moi qui, vraiment, j'y arrivais plus. Je me souviens du premier jour où je suis revenue. Alors, du fait de ma grossesse compliquée, j'ai été arrêtée presque un an. Donc, je suis revenue, j'ai été très bien accompagnée. La CAD était vraiment très à l'écoute. Enfin, j'ai pas été poussée au point de pas être bien. C'est vraiment moi qui n'arrivais plus à mettre cette juste distance. Et je me souviens de mon jour de reprise, j'avais deux collègues en fait qui étaient en train de prendre en soin un bébé qui avait une pathologie digestive. Et en fait, quand nous, on a fini de s'occuper de nos bébés, on fait toujours le tour de toutes les chambres pour savoir si les collègues ont besoin. Et je suis rentrée dans cette chambre et un bébé en fait avait des haut-le-cœur à répétition. On peut se dire en tant qu'infirmière, bon, c'est quand même assez banal, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, on est plutôt confronté à ça régulièrement. Mais je n'ai pas pu. De voir ce bébé en souffrance, de ne pas réussir à reprendre sa respiration, avec ses petits yeux qui disaient, j'ai pas pu. Je suis restée comme ça. Mes collègues ont dit, Caroline, sors parce que là, t'y arrives pas. Et c'était vraiment le cas. Je me suis dit, mais oulala, en fait, je comprenais réellement les collègues, quand j'avais fait mon stage pré-pro en réanimation pédiatrique, qui me disaient, tu vois, autour de toi, il n'y a que des femmes qui ne sont pas mamans, et il y a bien une raison pour ça. Et en fait, je m'en doutais un petit peu que ça allait chambouler les choses, on le sait très bien, être maman, c'est pas rien. Mais c'est vrai que ça a été quand même une phase pas évidente. Après, les choses ont fait que j'ai réussi à m'y remettre, mais je me sentais plus complètement à ma place comme avant. Donc, du coup, en 2019, on a décidé de revenir à nos origines, donc revenir vers la région nantaise, là où on est originaire avec mon conjoint. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, en fait, d'écouter un petit peu mes envies et de me diriger vers l'accompagnement à la parentalité.
D'accord.
Voilà, donc les choses ont un peu cheminé. Ça a été toujours un petit peu lié à des petites marches à monter, quoi. Bordeaux-Paris, ouais. C'était ça. Paris-Nantes, voilà. Il y a des petits événements qui ont fait que c'était le bon moment, quoi. Donc en fait, on est rentré sur Nantes en me disant, pour l'instant, je ne reprends pas l'hospitalier. Je pose une disponibilité, je ne reprends pas l'hospitalier. Et je me consacre à l'envie d'accompagner ces familles, ces bébés différemment. Et puis le Covid est arrivé, j'ai pas pu faire ça tout de suite, et c'est à ce moment-là du coup que j'ai travaillé en unité kangourou,
d'accord,
maternité, voilà, et petite néonate, c'était un niveau 2, donc voilà, j'ai repris en fait un petit peu à ce moment-là.
Qui était peut-être du coup un bon compromis, parce que t'avais peut-être des situations un peu moins extrêmes que ce que t'avais vécu pendant ces 6 ans. C'était une bonne transition aussi.
Exactement.
Avant de te lancer complètement dans ton aventure entrepreneuriale, j'ai envie de dire.
Exactement. Et puis, comme je te disais au début, les prématurés, c'est vraiment une vocation, quoi. Donc, en fait, je me suis rendu compte que du moment où j'ai quitté Paris et où j'ai repris mon nouveau poste, il s'est passé 10 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait. Donc, effectivement, ça a été vraiment la transition de me dire, tranquillement, tu crées ta micro-entreprise pour accompagner les familles différemment, mais en même temps tu quittes pas la néonate. C'était un bon entre-deux jusqu'à ce que l'accompagnement en périnatalité prenne toute sa place, mais ça a été effectivement en douceur, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu parlais de cette histoire, voilà, de transfert, de projection. Enfin, moi c'est quelque chose qu'on a beaucoup beaucoup abordé pendant mes études d'infirmière, où on nous disait il faut pas transposer votre histoire à travers celle de vos patients. Alors c'est extrêmement facile à dire, beaucoup moins difficile à mettre en place. Mais c'est vrai qu'on a tous, je pense, en tant que soignant, vécu une situation où on se dit, là, je, Alors, se mettre à la place de l'autre, c'est humain, hein, c'est de l'empathie, oui. Ça commence par ça, mais voilà, parfois ça nous dessert, ça va trop loin. Et c'est bien du coup que tu aies réussi aussi à te dire que c'était le moment de changer, de faire autre chose, puis que tes collègues t'aient soutenu, que tu aies eu aussi le soutien de ta cadre infirmière.
Ah oui, c'est
ça
indispensable.
Ça fait plaisir d'entendre ça.
C'est indispensable. Après, je pense que dans des services comme là où j'étais, où il y a des soins de réanimation, etc., le travail d'équipe, il est fort dès le début parce qu'on a besoin. Enfin, moi, je me souviens d'une situation d'un bébé qu'on avait accueilli, qui était transféré en fait des dom-toms jusqu'à Paris pour une prise en charge. Et à peine 24 heures après son arrivée, il fait un arrêt cardiaque. On ne sait pas d'où, comment, pourquoi. Ça a été une situation très compliquée. Et je me souviens que voilà, toutes les filles sont arrivées dans la chambre en même temps. Personne m'a laissé tomber. J'avais eu des messages le lendemain en me disant « Caroline, comment tu te sens après cette situation ?» Il y a la psychologue qui était venue. Enfin, c'est vraiment, il y a un gros socle quand même et c'est nécessaire. S'il y a plus gros socle, je ne pense pas qu'on puisse faire son travail sereinement, correctement. C'est des services quand même où on a besoin d'être soutenu, même si on a fait le choix de faire ce métier, qu'on a fait le choix d'exercer dans un tel service. C'est pas rien de recevoir ses émotions, d'être confronté à la mort, c'est pas rien quoi. Donc,
mais tu sais, rien que le détail, quand tu dis une fois que t'as fini les soins auprès de tes petits patients, tu vas vers tes collègues pour voir si elles ont besoin d'aide. Moi, dans tous les services de soins aigus, alors moi j'ai jamais travaillé avec les enfants, mais avec les adultes, j'ai vécu cette situation là en fait, on voit ça dans tous ces services là il y a toujours du soutien de la part de l'équipe. Et dans d'autres services, je l'ai pas forcément ressenti, mais dans les soins aigus, c'est quelque chose qui est très répandu. Il y a un vrai esprit d'équipe et ça va beaucoup plus loin que juste bien s'entendre quoi.
Mais oui, complètement, complètement. Et après, je pense que aussi on a tout en tête que tout peut basculer d'un moment à un autre, et donc du coup on est aussi beaucoup dans l'anticipation. Tout ce qu'on peut faire avant en équipe, on le fait parce qu'on sait pas de ce que l'heure d'après sera faite quoi. Ça peut être une entrée en urgence, une réanimation, c'était vraiment quelque chose d'important, en tout cas dans le service où je travaillais, et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai tellement aimé y travailler, parce que c'est essentiel quoi, c'est vraiment
c'est sûr.
Essentiel. Et c'était le cas aussi avec les pédiatres. Ouais. Cette relation avec les médecins, elle est pas toujours facile, il y a un peu cette hiérarchie où parfois on n'ose pas,
c'est vrai,
et en fait non, c'était la même chose avec les pédiatres, et c'est chouette quoi.
Ah super, Bon alors aujourd'hui tu es donc accompagnante périnatale, alors
oui.
Un terme qui rassemble beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que tu fais au quotidien. Donc une fois, voilà, toutes ces histoires logistiques de création de micro-entreprise, etc., tu t'es lancée dans cette activité. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes missions ? Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup et que tu as sûrement choisi de te fixer sur certaines d'entre elles.
Exactement. Alors au tout début, moi je me suis formée au massage pour bébé. J'avais déjà cette idée en tête quand je travaillais en néonat, parce que je me suis vraiment rendu compte de l'importance du toucher par les temps de peau à peau qu'on faisait de manière très 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 régulière avec les parents. On voyait vraiment le prématuré se stabiliser quand il était sur son parent, le parent créer du lien, avoir de l'estime dans ce qu'il était malgré la naissance difficile. Enfin voilà, on voyait vraiment le côté très positif de ce toucher là et donc je me suis formée au massage pour bébé avec l'Association internationale du massage pour bébé.
D'accord.
En 2019, qui a été une formation extraordinaire, qui m'a beaucoup appris sur le toucher, sur le lien que ça pouvait avoir justement avec le lien d'attachement, le fait de créer ce lien sécure avec son bébé pour qu'il grandisse de manière sereine. Donc à la base c'était le massage, c'était vraiment ça. Et puis au fur et à mesure des semaines, des mois qui ont passé, j'ai développé un petit peu ce que je pouvais proposer en fonction des besoins que je voyais autour de moi. J'ai ensuite créé des ateliers de ce qu'on appelle bébé signe. Alors c'est le bébé signe, c'est le nom un peu vulgaire de cette pratique. En fait, on utilise plus les signes associés à la parole, le fait d'utiliser des signes de la langue des signes française pour communiquer précocement avec son bébé. J'ai fait cette formation avec Isabelle Cotenceau d'Éveil et Signes, qui est passionnée et passionnante comme femme. Elle a un parcours bien précis et elle initie à la culture sourde de manière très, très positive et elle nous ouvre les yeux aussi en tant que soignant de dire bah attendez, être sourd ce n'est pas un handicap, il y a plein de choses aussi qui sont mises en place, une langue bien bien précise, enfin voilà, c'est vraiment, ça a été une très bonne formation là aussi. Et ensuite, je me suis surtout orientée sur deux points précis qui vont vraiment découler de ma pratique en néonat, qui sont la prématurité et le deuil périnatal. Donc, me suis beaucoup formée sur la prématurité de par mon expérience professionnelle et je continue régulièrement de me former auprès de l'association SOS Préma, qui est une association qui œuvre pour les enfants et les familles de prématurés et qui fait en fait tous les ans des journées soignants. On a la venue des parents qui témoignent de leur histoire, de leur prise en charge, ce qui leur a été positif, ce qui les a aidés dans l'hospitalisation de leur bébé et puis ce qu'ils auraient aimé. Donc, ça nous permet quand même d'énormément se questionner sur notre...
Oh, c'est génial.
Ouais. C'est essentiel.
Ouais. J'avais vraiment le retour des parents. Oh, super. Oh, je mettrai en description de l'épisode voilà, tout ce que tu viens de citer, s'il y a des gens qui veulent aller trouver des informations supplémentaires.
Ouais.
Oh, super.
Ouais, ça, c'est hyper important. Et puis, en fait, c'est pendant ces journées-là que je me suis rendu compte que beaucoup de parents étaient en souffrance sur, finalement, le retour à la maison. Mmh. On pourrait croire que c'est quelque chose de très joyeux. Ça l'est, effectivement. Mais pas que, en fait, parce que leurs bébés, quand ils sont en néonat, ils sont sans cesse scopés. Ils ont, on surveille leur rythme cardiaque, leur fréquence respiratoire. On contrôle leur alimentation. Et puis, en fait, peut-être après des jours, des semaines, voire des mois d'hospitalisation, ils se retrouvent tout seuls à la maison. Et il y a un côté très, très anxiogène, plus, j'ai envie de dire, un peu le retour du boomerang où ils ont été très forts pendant l'hospitalisation de leur bébé.
Ouais.
Et là, ça y est, ils sont à la maison, ils relâchent tout. Et ils sont pas forcément accompagnés comme ils le devraient. Donc, avec toutes ces prises de conscience, en fait, j'ai créé des cercles autour de la prématurité. Ça ressemble un petit peu à des groupes de parole où chacun va raconter son histoire, mais je mets aussi un point d'honneur à leur proposer des temps de relaxation autour d'automassage, des temps de méditation,
oh,
etc.
Super.
Ouais,
super.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, je reste quand même connectée, tu vois, à la prématurité.
Oui, oui, oui.
Mais ça m'anime.
Mais du coup, t'as tout ce bagage, tout ce regard qui peut les aider et qui peut, toi, t'aider à les accompagner. Et comme tu dis, pour garder ce fil, elle est dure, hein, cette jonction, quand on rentre à la maison.
Ouais.
Et que, voilà, alors à la fois, c'est comme tu dis, ces machines, elles sont anxiogènes, ça bip dans tous les sens, etc. Puis à la maison, il n'y a plus rien, il n'y a plus de surveillance.
Ouais.
Et c'est très stressant. Donc, toi, t'es là pour voilà, les aider à un retour à la maison...
Plus serein et puis ne serait-ce qu'accueillir leurs émotions en fait, de voir un parent qui est complètement en larmes et qui comprend même pas pourquoi il a cette émotion parce qu'il me dit bah j'ai mon enfant à la maison, moi j'ai réussi à le ramener à la maison et pourtant je suis pas bien, qu'est-ce qui m'arrive, je devrais pas être comme ça.
La culpabilité en fait, aussi.
Exactement. La culpabilité parentale, ça c'est quelque chose sur alors à travers toutes mes pratiques, hein, mais que je vois énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnement à proposer parce que c'est une souffrance énorme. Il y a les tabous qui se lèvent un petit peu sur la dépression du postpartum, etc. Mmh. Mais c'est une réalité, quoi. C'est vraiment, il peut y avoir beaucoup de parents en souffrance et ils se doivent d'être accompagnés. Et c'est pas parce qu'on a eu un enfant et que tout doit être tout beau, tout rose, tout pailleté que c'est le cas forcément. Non, il y a parfois des situations bien plus complexes. Donc effectivement, le retour à la maison d'un prématuré, c'est pas anodin.
J'imagine. Qu'est-ce que tu aimes dans ce alors nouveau métier? Oui et non, parce que du coup, tout ton bagage t'est encore utile aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu apprécies dans ce que tu fais aujourd'hui?
Ce que j'apprécie, c'est prendre le temps d'écouter, d'accompagner, d'être dans la relation d'aide en fait. C'est ce qui me frustrait un petit peu à la fin en néonat, c'est qu'on était beaucoup dans la technicité. C'est ce que je recherchais, je pense, au début de ma carrière. Mais parfois, on n'avait pas le temps d'être dans l'écoute des besoins, etc. Ça m'a beaucoup manqué et je pense que c'est aussi mon regard de maman qui a fait ça parce que de par mon expérience, je sais à quel point c'est important d'avoir cette oreille attentive et c'est ça vraiment qui m'anime, quoi. Et c'est de récolter chaque histoire et de voir aussi l'évolution parce que par exemple, pour le massage pour bébé, ça se fait sur 5 semaines. En fait, je vois les familles 5 semaines d'affilée. Et chaque semaine, on masse une partie du corps différente du bébé. Enfin, on masse. C'est le parent qui masse. Moi, je monte sur un poupon professionnel parce que le but, c'est que le parent crée du lien avec son enfant. Donc, si c'est moi qui masse, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, j'observe beaucoup là aussi. Et je suis un petit peu celle qui voit le lien se créer entre eux. Les choses se réparer, et c'est un super cadeau, quoi. C'est vraiment chouette. Et des mamans, justement, qui étaient, parfois jusque dans les dépressions du postpartum, au bout de 5 semaines. Alors, du coup, le nom de ma micro-entreprise, c'est Éclore et Devenir, mais j'aime vraiment utiliser ce mot-là. Je les vois éclore, je les vois s'épanouir, je les vois s'ouvrir au monde avec leur bébé. Et je trouve que c'est super chouette, quoi. Je me sens chanceuse de pouvoir vivre ces choses-là, quoi.
Donc, et elles arrivent aussi à te le communiquer, ça, elles arrivent à l'exprimer?
Oui, enfin en tout cas, peut-être pas tout de suite de prime abord comme on se voit, mais moi quand je les rencontre, je leur dis toujours, on accueille les besoins de votre bébé, c'est votre bébé qui va guider notre séance de massage, s'il a envie d'être massé, s'il n'a pas envie d'être massé, c'est ok, s'il préfère manger, être câliné, bercé, c'est ok, et vous c'est pareil, s'il y a des émotions qui remontent, vous les laissez remonter, parce que votre bébé c'est une éponge, s'il n'est pas bien, si vous n'êtes pas bien, votre bébé il sera pas forcément bien, si vous n'êtes pas en confiance, il ne le sera pas aussi, et puis de toute façon je commence toujours mes ateliers par un temps de relaxation par le parent. Donc, généralement, ça remonte. S'il y a des choses à faire ressurgir, ça remonte très vite à ce moment-là. Puis, au bout de 5 semaines, il y a une relation de confiance qui se crée aussi. Donc, il y a des belles choses qui se dénouent. Et puis, c'est précieux, en fait. Je me rends compte que c'est vraiment précieux aujourd'hui.
De quoi est-ce que tu manques aujourd'hui pour pouvoir exercer tout ça comme tu le souhaites ?
Alors, mon rêve, ça serait d'avoir mon petit cabinet, en fait, mon local à moi, et de proposer encore plus de choses. Là, je me suis arrêtée dans ma description sur les cercles autour de la prématurité. Je fais la même chose sur le deuil périnatal. Et puis, dernièrement, je me suis formée aux empreintes émotionnelles de la vie prénatale et de la naissance. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle.
Pas du tout, mais dis-moi plus.
C'est très spécifique. Ouais. En fait, ça va être tous les événements, les émotions que le bébé va ressentir durant la grossesse ou à l'accouchement. Ça peut créer un état d'esprit, des émotions sur ce qui sera enfant et plus grand. Et d'accord. En fait, on le voit aussi chez la femme enceinte. En fait, quand elle est enceinte, souvent, la femme, elle va repenser à ce qu'elle a vécu enfant, la relation qu'elle va avoir eue. Parce que justement, il y a plein de choses qui ressurgissent sur ses empreintes à elle, quand elle était dans le ventre de sa mère, quand elle est née, et puis ce qu'elle était enfant. Donc, c'est pas anodin.
D'accord.
Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie, je voulais vraiment avoir comme formation, parce que en service de néonat, les bébés, on voyait très bien qu'ils avaient une mémoire corporelle déjà. Même au début, pourtant, on disait oh, les bébés, ils ressentent pas la douleur, ils ressentent pas les émotions. C'était il y a quand même des dizaines d'années. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas, et heureusement, on peut adapter nos pratiques. Mais aujourd'hui, on va encore plus loin que ça. On sait qu'ils ont aussi une mémoire sur les émotions, et ils s'approprient aussi l'émotion de leurs parents. Et c'est pas anodin pour eux aussi, pour leur développement. Donc, j'avais vraiment envie de m'axer sur ça. Et du coup, là, j'attends une formation pour janvier qui s'appelle la réflexologie bébé émotionnelle avec Caroline Hamon. Ça aussi, je pourrais le partager, où en fait, on va apprendre des protocoles de réflexologie plantaire pour libérer du coup ces émotions liées à une naissance difficile ou à une grossesse difficile, quand il y a la perte d'un jumeau par exemple, ou quand on est né après plusieurs fausses couches. Enfin voilà, tout ça, ça marque en fait. C'est pas anodin en fait, toute cette histoire là. Donc, j'ai hâte de finir de me former à tout ce que j'ai envie d'apprendre.
Il y en a des choses.
Est-ce que ça peut se finir après?
Oui, c'est ça. Est-ce que vraiment, au bout d'un moment, on a l'impression qu'on en a fait le tour? Je suis pas certaine.
C'est ça, ouais.
Mais c'est bien d'avoir cette soif d'apprendre. Et j'en profite pour rebondir sur l'épisode 25 où j'avais reçu Charlotte.
Oui.
Qui est pédiatre en néonatologie. C'est un des... Je pense qu'il est dans le top 3 des écoutes, cet épisode. Il a été énormément, énormément apprécié, à commencer par moi. Mmh. Et elle parlait justement voilà, des a priori qu'on pouvait avoir sur les bébés, les prématurés, ou... Alors, tu dis, il y a des dizaines d'années, mais finalement, c'est pas si loin que
c'est
ça.
C'est pas si loin que ça.
Où on pensait que, voilà, les nouveau-nés ne ressentaient rien, à commencer par la douleur. Il y avait beaucoup, beaucoup de fausses croyances ou de choses qu'on ne savait pas sur les nouveau-nés. Et la médecine évolue beaucoup. Et alors, ça fait voilà, maintenant plusieurs dizaines d'années que ça va dans le bon sens. Mais finalement, on ne parle pas du tout du 19e siècle. Hein, c'était quand même...
Complètement. Et puis aujourd'hui, encore plus, parce qu'avec le développement des neurosciences, avec Catherine Guéguen, on se rend compte en fait, vraiment que le tout petit, il s'imprègne d'énormément de choses. De la douleur, des émotions. Enfin, c'est énorme. Et sur un petit cerveau qui est mature, son environnement se doit d'être le plus sain, le plus sécure possible. Alors, il y a aussi l'envers du décor quand on entend tout ça en tant que parent. J'ai une maman qui m'a fait la remarque, d'ailleurs, l'autre jour. Une maman que je reçois pour un atelier de massage bébé et qui est en hyper-vigilance avec son enfant. Mmh. Et c'est une maman, en fait, qui me dit j'ai lu énormément de livres pendant la grossesse sur Catherine Guéguen. Je sais que mon enfant, il ne doit pas avoir ci, il ne doit pas avoir ça. Avant 6 ans, c'est hyper important que, il soit dans un environnement sécur, que j'écoute ses frustrations. Du coup, elle est en alerte sur tout et elle s'épuisait, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, aussi, de savoir tout ça, ben, ça amène ça peut, en tout cas, amener un parent qui est... qui peut être hyper, il veut être hyper perfectionniste avec son enfant,
il veut
vraiment être dans le « je veux tout bien faire, tout le temps
».
Et j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est dans la parentalité aujourd'hui, tout ce qu'on entend sur la parentalité positive, sur les violences éducatives ordinaires.
Oui, ça peut être très culpabilisant aussi.
Exactement.
Exactement. Vrai.
Et je pense que c'est aussi, du coup, moi je le vois comme ça, de mon rôle de temporiser un petit peu et de se dire qu'on a le droit de faire des erreurs en tant que parents, on en fait tous en fait, et que ce qui est important c'est de verbaliser ensuite avec son enfant, et déjà si on s'en rend compte c'est que tout le travail est fait en fait,
Je suis complètement
juste
d'accord.
Humain.
Et savoir dire pardon aussi, enfin moi c'est un truc que je dis très souvent pardon à ma fille, je suis désolée aujourd'hui, je me sentais pas bien, j'étais fatiguée, et alors moi maintenant elle a bientôt 6 ans, mais ça fait des années que je fais ça, je me demande même si je le fais pas depuis la naissance quasiment, et en fait les enfants sont très très vite en capacité de comprendre et de pardonner, si le parent arrive aussi à exprimer ses émotions, ça aidera aussi l'enfant à savoir le faire derrière. Mais je comprends ce que tu voulais dire à travers l'histoire de ta patiente, mais oui, le savoir, c'est le pouvoir, mais quand on sait beaucoup
on sait
choses,
trop.
Ça peut aussi être un peu... Ouais, ça peut être culpabilisant aussi.
Complètement. Vrai. Et c'est pareil, ça me fait repenser à une autre situation où j'avais une maman, en fait, qui était soignante. Et c'est pareil, de trop savoir, elle était soignante auprès des tout-petits aussi. Et en fait, de trop savoir, ça l'avait complètement perdue, parce qu'elle elle se mettait une pression énorme à noter sur un cahier toutes les 3 heures la température du bébé, ce qu'il y avait dans la couche, combien il mangeait. Et en fait, elle perdait le lien, on va dire, émotionnel avec son bébé, parce qu'elle était... comme au travail, en fait.
Dans la technique.
Dans la surveillance, exactement. Et c'est pas simple, c'est pas simple de trouver la juste distance, mais je pense que du coup, nos pratiques en tant qu'accompagnante périnatale, ça peut justement prévenir des situations qui peuvent être plus compliquées pour certains parents, et d'accompagner au plus juste, mais c'est un gros travail, parce que de toute façon, être avec l'émotionnel, c'est jamais simple. C'est jamais simple.
Mais c'est génial que tu sois là aussi pour ce pan-là, parce que les enfants seront toujours surveillés derrière par un médecin, un pédiatre. Après, quand on est on vient d'accoucher, la maman voit son gynécologue, sa sage-femme, etc. Et si tous ces professionnels sont extrêmement bienveillants et extrêmement bien formés pour ce qu'ils font, il n'y a parfois pas la place pour discuter, parce qu'il n'y a pas le temps, parce que le système de santé en ce moment c'est difficile et c'est pas en train de s'arranger. Et du coup, toi, t'es là pour ça, pour vraiment prendre le temps de discuter avec ces personnes, de trouver les problèmes et puis de décortiquer, quoi.
Ouais, exactement. Et puis, ce qui est différent aussi avec ma pratique, c'est que c'est les parents qui me contactent. Donc, ça veut dire qu'ils
Oui.
viennent vers moi quand eux se sentent prêts à exprimer les choses ou à régler certaines choses qui sont compliquées en eux. Et d'avoir effectivement les professionnels quand on vient d'accoucher ou en postpartum immédiat, c'est hyper important parce que effectivement ils sont tout de suite en alerte sur des situations compliquées, mais on ne sait pas en fait de ce que le postpartum, comment il peut se passer quelques semaines, quelques mois après. Et de me dire que c'est les parents qui viennent à moi, je trouve que ça change quand même beaucoup de choses parce que du coup, s'ils viennent à moi, ça peut être tout simplement un plaisir parce qu'ils veulent venir partager quelque chose avec leur bébé, créer du lien, passer un moment un petit peu en dehors du quotidien, ou alors parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est plus difficile en eux ou avec leur bébé. Et à partir de là, moi, c'est ce que je leur dis. Si vous me contactez, c'est que déjà, la plus grosse marche est montée et
Ah,
le reste va
clairement.
suivre.
Clairement. Et comment est-ce que tu arrives justement à te faire connaître? Est-ce que auprès de, bah, typiquement l'hôpital dans lequel tu as travaillé, tu peux renvoyer ou demander à des personnes de renvoyer des patients vers toi?
Ouais, alors ça c'est, moi je trouve c'est la plus grosse difficulté que j'ai eue parce que de base je suis soignante et tout ce qui est côté commercial, se faire
Ouais.
connaître, se vendre un petit peu, hein, si je peux dire ça comme ça a été
C'est
compliqué.
dur.
Ah ouais. Alors ma petite sœur m'a beaucoup aidée, donc ça c'était très bien. Et puis après bah c'est du bouche à oreille, les réseaux sociaux, enfin voilà, mais démarcher effectivement les structures de la petite enfance, les maternités, mais c'est pas effectivement c'est pas la, en tout cas me concernant la partie la plus simple et celle que j'ai préférée quoi, parce que
Ouais, c'est sûr.
c'est pas c'est jamais simple de se vendre et de ouais donner des cartes de
Communiquer,
visite
ouais.
hein, ouais.
Ouais. Faire de la prospection, c'est pas, hein,
Oui,
c'est pas
voilà.
facile, hein.
Non, c'est pas facile, exactement.
Bon, en tout cas, moi, je mettrai les références, voilà, de ton site internet
Oui.
qui est magnifique, Éclore et devenir.
Merci.
On le mettra dans la description de l'épisode. Est-ce que tu fais aussi des choses en visio, à distance, pour des personnes qui seraient pas là où tu habites?
Alors oui, je peux faire en visio. Ça dépend en fait pardon, quelle thématique on partirait. Tout ce qui est massage bébé et bébé signe, ça c'est, et réflexologie plantaire émotionnelle, c'est sûr que c'est en présentiel. Après, si on veut travailler sur nos empreintes émotionnelles de la vie prénatale et de la naissance, comme sur la prématurité ou le deuil périnatal, ça peut bien sûr être en visio, bien sûr.
Ben voilà,
On
le message est
s'adapte.
passé. S'il y a des gens que ça
Merci
intéresse.
Marielle.
On va super, un grand merci Caroline pour tout
Merci à
ça.
toi.
On va finir l'épisode avec les petites questions du portrait chinois. J'ai encore
Oui.
des petites choses à te demander. La première question, que dirais-tu à la Caroline d'il y a 10 ans?
Alors, quand tu m'as
Fin
envoyé ce
d'études.
mail justement avec cette question, je me suis dit, il y a 10 ans, où est-ce que j'étais? Eh bien, justement, je venais juste d'avoir mon diplôme et j'étais dans ce fameux service de cancérologie digestive soins palliatifs. Donc, je lui dirais clairement, accroche-toi, parce que c'était quand même un service très, très éprouvant. Tu sais que tu veux faire ce métier depuis très longtemps, accroche-toi et juste les choses vont arriver à point nommé quand ça sera pile le bon moment. Donc voilà, de l'espoir, du positif et.
C'est ça, le meilleur reste à venir.
Exactement.
Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
Alors ça n'a pas été simple à répondre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. La première, enfin, une des choses essentielles, je pense, c'est qu'être infirmière, ce n'est pas un seul type de métier, qu'il y a énormément de métiers d'infirmière, mais qui touche à tous les âges de la vie. Une infirmière en EHPAD ne va pas du tout être la même qu'une infirmière en néonate, une infirmière scolaire non plus. Enfin voilà, et que de par notre personnalité aussi, notre sensibilité, même si comme tu disais tout à l'heure, on nous alerte beaucoup, beaucoup sur la juste distance. Je pense que ce qu'on est aussi en tant que personne, ça influe sur ce qu'on est en tant qu'infirmière. Et parfois, moi, je me dis, j'ai le droit de laisser la Caroline un peu plus personnelle en rentrer dans la blouse,
Bien
parce que c'est
sûr.
ce qui fait être empathique et être complètement en accord avec le patient et ses émotions. Donc, oui, la juste distance, mais pas non plus être complètement coupée de ses émotions, parce que je
Ah,
pense que
clairement.
c'est. Ça ferait défaut pour le coup.
Clairement. Et puis ça se vérifie. Enfin, moi, je l'ai vu pendant tous les jours de toute ma carrière. Il y a des situations qui nous touchent plus que d'autres. Et il va se passer exactement la même chose avec d'autres soignants. Et c'est ça qui fait la beauté du métier. Il y a des histoires qui nous touchent davantage et on n'a pas tous la même sensibilité. Et heureusement qu'on n'est pas tous sur un système robotisé, ça serait trop triste. Complètement.
Et puis, je me souviens d'un pédiatre avec qui je travaillais qui m'avait dit « Tu sais, on n'est pas là par hasard. Il y a forcément quelque chose qui nous a amené déjà à être soignant. » Parce qu'être soignant, on ne le choisit pas... On ne choisit pas comme ça. Enfin, moi, je vois, par exemple, dans ma famille, je suis la seule à être soignante. Personne n'est du milieu médical, paramédical. Et donc, je sais que je ne suis pas là par hasard. Et le travail sur mes empreintes, justement, a beaucoup joué à comprendre pourquoi j'en étais là. Et je trouve ça chouette de travailler aussi avec ce qu'on est profondément. C'est hyper, hyper important d'être en accord quoi, avec soi-même.
Exactement. Amener un petit peu de soi dans toute sa pratique, c'est important. Ouais, carrément. La question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou.
Alors moi, je suis très, tu sais, personne période. J'ai une période pour un chanteur, une période pour... Mais en ce moment, ça serait Julien Doré, parce que ma fille adore ça et on danse dessus toute la journée.
Est-ce que tu penses que je vais te dire le contraire? Je suis absolument fan de cet homme. Je l'adore.
C'est clair. Ouais. Et il fait du bien, enfin, il booste, il bonne énergie.
Je suis d'accord. Enfin, j'ai eu une révélation en concert avec lui, ça doit faire pas loin de 10 ans maintenant, mais vraiment il est incroyable.
Ah bah oui,
vu en concert ?
Oui, ben, l'année dernière, ouais.
Ah.
Il est énorme, hein. Mais il a une humanité, enfin, il est vraiment. Ouais. Il a des messages très sensés, mais c'est fou, quoi. Ce qu'il fait passer, c'est.
Ouais, et puis tu vois, même son. On fait une aparté, Julien Doré, j'en reviens pas, je pensais pas que ça arriverait un jour dans un épisode, je suis ravie. Son dernier vinyle qu'il a sorti en édition limitée, moi je l'ai racheté alors que j'avais déjà le premier, donc j'ai eu quelques chansons bonus, mais il avait. Si je dis pas de bêtises, la quasi-totalité des bénéfices qui étaient reversés à l'association des Blues Roses.
Les Blues Roses, ouais.
Enfin, franchement, bravo, quoi.
Mais ça se sent, de toute façon, qu'il a un cœur énorme. Il est hyper investi. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, écoutez Julien, du Julien Doré.
T'écouteras pas cet épisode, mais on t'aime.
C'est ça.
Question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite. Alors du coup, peut-être le parent d'un bébé.
En fait, mais du coup, comme je te disais au tout début, le fait qu'on se voit ce matin, ça m'a fait me replonger un petit peu dans mon portfolio, toutes mes archives un petit peu en tant qu'infirmière. Et je suis retombée sur un petit classeur où j'ai conservé tous les faire-part que les parents m'envoyaient après des jours, des semaines, des mois d'hospitalisation. Et en fait, je trouve que c'est ça le plus beau cadeau, de voir ses remerciements, ses petites têtes de bébé à la maison. Enfin, voilà, je trouve qu'on se dit, on a fait du beau travail. Et puis, dans ce petit classeur, j'avais aussi un faire-part de décès d'un bébé que j'avais accompagné. Et même si l'événement est moins joyeux, je me dis qu'en fait, c'est un énorme cadeau de m'avoir envoyé ce faire-part-là de ce petit bébé. Parce que même si l'événement était très douloureux, je me souviens que c'était quand même un accompagnement très, très beau et qu'on a créé de beaux, jolis souvenirs pour les parents. Et voilà, donc ce petit classeur-là est vraiment très, très précieux.
Il est précieux. Moi, j'ai une boîte avec tous les mots que m'ont écrit des patients pendant ma carrière.
Mais c'est génial.
Quand j'ai un petit
autant que Julien Doré, t'es d'accord ?
Oui, c'est ça. Alors, si je mets une chanson de Julien Doré et que je lis les petits mots en même temps, je t'explique pas, je me transforme en fontaine. Non, mais ça, je les ai tous gardés et parfois c'est juste écrit merci pour vos soins sur une petite carte et je les ai et je me souviens de chacun d'eux.
C'est ça qui est hyper émouvant.
S'il y a des gens qui nous écoutent et qui, un jour, je leur souhaite pas, mais sont hospitalisés ou un proche hospitalisé ou autre, ça fait partie des petits moteurs aussi pour les soignants.
Complètement.
Et on ne demande jamais rien, mais ni de la nourriture, ni de l'argent, ni rien du tout.
Et pourtant, on est gâtés en chocolat.
Ouais,
et
franchement.
Ouais, les gens sont très généreux.
Les gens sont très généreux, surtout dans ces services-là, mais vraiment, un mot manuscrit me touche énormément sur un petit
bout de papier. Je me souviendrai toujours d'une famille, c'était un petit garçon que j'avais accompagné pendant des semaines et des semaines. Et en fait, je les avais suivis de jour. Et au bout d'un moment, en fait, on alternait jour-nuit, je rebascule de nuit. Et un geste adorable. Mais vraiment, il me laissait tous les soirs une petite boîte de bonbons pour ma nuit, pour que voilà, je sois bien en forme pour prendre soin de leur petit Camille, si je peux le nommer. Et en fait, c'est des petites attentions, mais vraiment adorables, quoi.
Adorable.
Une petite boîte de bonbons, un petit mot bon courage pour la nuit, et on se dit, bah, waouh, quoi,
c'est trop mignon. Moi, j'avais une patiente aux soins intensifs qui était très jeune, hein, qui avait quasiment mon âge quand je travaillais à Lyon, et elle avait entendu de la part d'une infirmière que c'était bientôt mon anniversaire. Donc moi, bien sûr, je n'ai pas dit c'est mon anniversaire dans deux jours, mais elle l'avait entendu et elle avait demandé à ses parents de m'acheter des boucles d'oreilles parce qu'elle voyait que j'avais toujours des boucles d'oreilles très colorées. Alors j'avais en plus des trucs un peu rigolos, j'avais des seringues, des machins, ça me faisait rire. Et elle m'avait offert une paire de boucles d'oreilles. Je les ai encore. Je les porte plus parce que c'est plus mon style aujourd'hui, mais je ne peux absolument pas m'en séparer.
Mais il y a des choses comme ça. C'est ouais, il y a des liens. On a tous, je pense, une petite boîte à trésors. Je me souviens aussi d'un papa, j'avais accueilli leurs jumeaux, il était photographe, il avait fait un reportage photo sur des femmes, il y avait peut-être 10-15 ans de ça, et il avait fait un reportage photo sur des infirmières, justement à l'hôpital Necker, qui s'occupaient des bébés bulles. Je sais pas si tu connais, hein, les enfants qui sont dans des bulles pour les protéger. Et il m'avait en fait envoyé ce livre-là en me disant, je crois que j'ai noté la phrase d'ailleurs, il m'avait dit c'est un hommage à toutes les femmes et il vous revient tout naturellement. Merci Caroline. Oh. Et en fait, je me disais, il y a des gens quand même si le système de soins est compliqué, on a quand même une reconnaissance de la part des patients qui est énorme, et c'est ça qui est moteur quand même dans notre pratique. Donc effectivement, comme tu dis, juste un merci et on est regonflé sur les 12 heures qui arrivent, quoi.
Clairement. Moi, tu sais, les petits mots que j'ai, ils sont souvent écrits à l'arrière des menus, tu sais, qu'il y a sur les plateaux, parce que clairement c'est le seul bout de papier que les gens ont souvent dans leur chambre. Et ils demandaient juste un stylo au passage, et j'en ai 3 ou 4 dans ma boîte comme ça.
Génial.
Même les prénoms, tu vois, qui se souviennent pas bien, l'infirmière brune avec une petite cheval, et tu te dis, ouais, ils en ont vu tellement qu'ils savent plus de qui ils parlent, mais c'est juste adorable, quoi. Ça fait du bien. Ça rebooste.
Ah oui, complètement.
La question suivante, ton meilleur fou rire au travail?
Alors, mon meilleur fou rire, je pense que c'était ma dernière nuit de travail, où mes collègues, elles m'ont fait une soirée de l'enfer. Alors, je sais pas si les bébés l'ont compris, mais ils ont été hyper calmes toute la soirée. Tout le monde a été hyper stable, ce qui a permis à mes collègues de me faire des bonnes blagues. Elles m'ont fait vraiment la grosse soupape où c'était le au revoir et c'était génial. Vraiment, on a passé une super soirée. Et ce qui était bien aussi dans cette équipe, c'est qu'il y avait un temps où on travaillait, on était vraiment hyper pro sur la prise en charge des bébés, mais on savait aussi avoir des soupapes et rigoler de tout, en fait. Et c'est hyper important aussi dans notre métier de pouvoir rire des choses pas très drôles. Effectivement, qu'on ne peut pas rire avec tout le monde, mais nous, en tant que soignants, entre nous, on peut en rire et ça fait du bien. Ça fait
carrément. Mais dans ces services-là, il y a toujours ce delta, hein, je trouve, entre le côté extrêmement sérieux, quand il faut être sérieux, et la majorité du temps d'ailleurs, et puis ces soupapes de décompression. Moi, je l'ai beaucoup vu dans les services aigus. Et parfois, je me souviens, on rigolait dans les salles de soins, et je me disais, s'il y a des familles qui passent dans le couloir, ils vont se dire, allez donc. Et en fait, je n'ai jamais entendu une réflexion désagréable, genre, ça rigole ici. Oui. Au contraire, on entendait des familles dire, on voit que vous êtes soudés, vous vous entendez bien. Et en fait, les familles, les patients apprécient de voir ça aussi.
Mais complètement. Mais de toute façon, je pense qu'ils le sentent, les parents, quand il y a une bonne ambiance d'équipe, une entraide, et puis quand il n'y en a pas. Je pense que ça résonne aussi jusqu'à eux, quoi. Donc,
ouais, c'est sûr.
Mais effectivement, ils sont plutôt heureux de voir que ça rigole, et ça leur amène aussi un petit peu de gaieté dans le moment qui est pas forcément facile, quoi.
Donc, c'est sûr. Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière?
Alors, je ne suis absolument pas film, et surtout je ne retiens pas du tout les titres, alors tu m'en voudras pas, Marielle. J'ai plutôt choisi un titre de livre qui m'a
beaucoup
marqué. Alors c'est de Virginie Grimaldi, et c'est Et que ne durent que nos moments doux. C'est justement sur une personne qui travaille en néonat et qui a un peu un écho avec sa vie personnelle sur un enfant prématuré. Donc voilà, c'est celui qui m'a beaucoup marqué, qui ferait plus résonance à mon histoire, du coup.
Ah ben, je le connais pas, celui-là. J'adore l'autrice. Alors, tu vois, ça me donne envie de la découvrir.
Vas-y, file. Je peux que te le recommander.
Je le mets sur ma liste de livres qui ne cesse de...
D'augmenter.
D'augmenter, voilà. J'ai une copine qui m'a appris dernièrement qu'il existait un mot japonais pour ça, alors que j'ai oublié, du coup. Mais qui est l'art, en gros, de ne cesser de racheter des livres alors qu'on n'a pas encore lu ceux qui étaient en attente. Voilà. Au Japon, ils ont un mot. Ouais, c'est vraiment... ouais, c'est un problème, mais... mais je le rajoute quand même sur ma liste.
Ouais, bah, avec grand plaisir.
Bon, bah, un grand merci, Caroline.
Merci à toi, Marielle. C'était un vrai moment de partage et je savais que ça allait être voilà, un joli moment d'échange et je te remercie pour ça.
Écoute, c'est moi qui suis ravie et alors je te souhaite le meilleur pour la suite. Un local, du coup, si ça peut t'aider dans tout ce que tu fais, ça pourrait être une belle étape. Et encore plein d'autres formations, du coup, si c'est ce dont tu as envie. Je t'en souhaite
Exactement.
Tout plein.
Mais en fait, je pense que oui, voilà, on ne peut jamais être rassasié de la parentalité. Il y a tellement de choses qui sont dites et qui s'apprennent. Et le développement sur les neurosciences fait qu'on ne sera jamais à court de savoir. Donc, et se mettre à la page aussi, c'est important.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de découvertes, d'avancées que c'est important de s'en mettre à la page, comme tu dis.
Exactement.
Merci, Caroline.
Bah de rien.
À bientôt.
Merci beaucoup, Marielle. Merci à toi.
Quel plaisir de découvrir le portrait de Caroline, sa détermination, sa douceur et cette reconversion tellement logique après son parcours en intra-hospitalier. Je vous glisse en description de l'épisode toutes les ressources, lectures et formations citées pendant l'épisode. Et je vous invite donc à découvrir l'épisode 25 où je recevais la pitiante Charlotte, pédiatre néonatologiste. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau portrait de soignant.